Il n'y a pas beaucoup qui doit être dit à ce point de la conférence. Je suis très confiant que ceux qui ont planifié la conférence, qui ont parlé, qui ont enseigné, qui ont dirigé les interviews, ont vraiment couvert ce qu'on voulait couvrir. Et je suis très, très, très reconnaissant pour tous ceux qui sont venus sur la scène. Ils ont participé et utilisé leurs dons. Ils nous ont servi avec excellence, avec diligence, avec une grande préparation de cœur et d'esprit pendant longtemps avant de menant la conférence. Nous sommes très reconnaissants pour les hommes qui sont venus, qui sont déjà engagés dans leur ministère et qui ont pris à cœur cette conférence dans la prière et dans la préparation. Nous sommes très reconnaissants. Je sais que la prédication, c'est le haut de l'iceberg, c'est ce que vous voyez. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'il y a en dessous. Et ainsi, on veut exprimer notre reconnaissance à tous ces hommes qui nous ont aidés. Et dont les ministères vont continuer à partir de maintenant. Et hier, il y avait 127 pays qui regardaient par Internet cette conférence. Il y avait plus de 25 000 points de repère où les gens recevaient notre conférence par Internet. Ce sont des temps uniques dans lesquels nous vivons. Dans le passé, ça prenait des centaines d'années pour exporter la vérité ou des idéaux. Mais pour faire ça dans le monde aussi rapidement, c'est quelque chose d'incroyable. Merci à tous les orateurs. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que nous avons dit, c'est allé autour de la terre. C'est une responsabilité que nous prenons très sérieusement. Très sérieusement. Et ce qui a été dit devait être dit. Ce qui a été dit devait être dit. La manière dont ça a été dit. Et on est satisfait de tout ça. Je suis reconnaissant que vous avez maintenant dans vos mains le livre que nous avons distribué, parce que c'est important que ces choses puissent être écrites. Comme j'ai dit dans les questions-réponses aujourd'hui, lorsque Dieu voulait communiquer avec nous, il a écrit un livre. Il n'a pas fait une vidéo. Il a écrit un livre. Parce que ça gèle la vérité. Ça la tient en place. Vous allez devoir prendre ce livre et le lire. Et ça va vous rappeler ce que vous avez vécu ici. Vous allez devenir les experts sur la matière pour partager ce message jusqu'aux extrémités de la terre, là où Dieu vous guide. On a des gens dans cet auditoire d'au moins 30 pays différents. Et partout dans notre pays, en Amérique du Nord, vous serez une force pour porter cette parole. Et j'espère que le livre vous aidera, qui a été écrit avec attention et bien documenté, à lire avec attention. Je crois que le cas que nous avons défendu cette semaine va pouvoir endurer les sceptiques. Et j'invite tous qui ont entendu ce qui a été dit et qui ont du mal à l'accepter ou à le croire, de prendre la Bible, de prendre le livre et de mesurer les arguments que nous donnons dans le livre par rapport à la parole. J'invite les gens à faire cela. Cette conférence, premièrement, est pour aider l'Église. Je n'ai pas d'illusion que les non-croyants ne vont pas pouvoir comprendre ce qu'on dit et ce qu'on a dit. Je pense qu'il y a beaucoup de non-croyants. Ce mouvement charismatique, je m'attends pas à ce que ces gens puissent comprendre la vérité ou avoir un désir ou une faim pour la vérité ou même pour rechercher la vérité. Ce n'est pas ce que les non-croyants font, sauf si le Saint-Esprit les attire à faire cela. Mais nous voulons vraiment aider l'Église. Nous avons parlé à des gens que nous croyons croient que la parole, la Bible, la parole de Dieu, et veulent prêcher ou vivre selon la parole, sans contradiction. Parce que ça, c'est l'Église réelle de Dieu, ceux qui sont appuyés sur la parole. On a fait cela pour aider l'Église à avoir du discernement, pour être protégée des erreurs, et pour que l'Église puisse être une source de vérité pour d'autres, en dehors de l'Église. Nous avons adressé ces choses au peuple de Dieu, de la vraie Église dans le royaume qui est mélangé sur terre entre croyants et non-croyants. Dans cette conférence, ces quelques derniers jours, il y a eu des attaques, des contre-attaques. Et on n'a pas pu s'en échapper parce que, comme vous voyez, elles apparaissent sur Internet, vous avez pu le constater. Mais je voudrais juste mentionner quelques-unes d'entre eux, parler de mon cœur. Et Steve m'a demandé comment tu te sens de ce que tu vas dire. Et j'ai dit c'est dur à dire parce que je ne suis pas encore sûr ce que je vais dire ce soir pour clôturer cette conférence. Mais je vais vous dire ce qui est sur mon cœur. Je pense que c'est important de répondre aux critiques qui sont venues. Et je vais les nommer mot à mot et donner une réponse brève. La première, c'est que nous avons choisi de ne pas montrer de l'amour. Mais ce que je suggère, c'est que la chose avec la plus d'amour que nous pouvons faire, c'est de dire aux gens la vérité. C'est comme ça que l'amour agit. Ce n'est pas l'amour qui laisse les gens dans l'erreur. Nous parlons la vérité dans l'amour. Ce n'est pas simplement parler d'une attitude ou le ton de la voix avec lequel on parle. De dire la vérité en elle-même, c'est un acte d'amour pour délivrer les gens. En acte 20, Paul rencontrait avec les anciens d'Éphèse et leur a dit... Je n'ai pas cessé pendant 3 ans de vous avertir avec des larmes, sachant que de l'extérieur et de l'intérieur, des gens trompeurs et pervers viendront pour vous confondre et vous mener sur une mauvaise voie. En fait, pour être un pasteur, un mentor, dans l'Église, vous avez le devoir, lorsqu'on voit en Tite 1, verset 4, la qualification de pasteur, c'est d'être capable de montrer les erreurs, de donner des arguments bibliques contre ces erreurs. C'est comme ça qu'on prend soin des brebis. C'est comme ça qu'on protège les brebis. Nous avons aussi été accusés de créer la division. Et je suis d'accord. La vérité, par sa nature, divise. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis venu pour apporter une épée, pour diviser les gens, diviser des familles. » La vérité, par sa nature, est séparée de l'erreur. Et c'est encore plus important d'être divisé par la vérité que d'être uni par l'erreur. Je comprends que la vérité divise. Il y a plusieurs années, lorsque j'ai écrit le livre « L'Évangile selon Jésus », il y a un prédicateur très connu qui m'a pris à part à manger et il m'a dit « Tu divises l'Église ». Il m'a repris et je lui ai demandé « Est-ce que ce que j'ai écrit est vrai ?» Est-ce que c'est vrai? C'est la seule question que j'ai. C'est la seule question que j'avais parce que bien sûr, la vérité divise, sépare immédiatement l'erreur avec la réalité. Troisième critique qui est venue, et je l'ai lu aujourd'hui, c'est que la question... n'est pas clair dans la Bible. Qu'une conférence comme celle-ci ait des désaccords avec nous, de personnes très connues, et même des académiciens bibliques connus, ça démontre que les Écritures ne sont pas claires sur ces questions. Et j'aimerais dire, en réponse à cette question, que si la question n'est pas claire, comme certaines personnes le réclament, ce n'est seulement, c'est devenu pas clair sous l'influence de fausses doctrines, de faux enseignements. C'était clair pour les apôtres. C'était clair pour les pères de l'Église, au début de l'âge de l'Église. On peut voir les citations dans mon livre. C'était clair pour les réformateurs. Et c'était clair pour les puritains. Et c'est clair dans des credos comme la confession de Westminster. C'est clair pour beaucoup de théologiens, comme B.B. Warfield. C'était clair pour Spurgeon. C'était clair pour R.C. Sproul, pour Jim Boyce, dans notre âge contemporain. C'est que c'est maintenant pas clair, comme Catherine Kuhlmann le dirait, Jimmy Swagger, ce sont les gens que vous écoutez, Jim Baker, Kellen Copeland. Bon, c'est une idée lunatique. Dans le courant historique de doctrine saine, cette vérité a toujours été claire comme du cristal. Et notre accusation que nous avons reçue, c'est que nous parlons de quelque chose qui est vrai seulement pour une frange extrême lunatique de ce mouvement. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des erreurs dans ce mouvement qui embrasse tout le mouvement, comme nous l'avons entendu aujourd'hui dans la session questions-réponses. Que lorsque on est connecté au milieu charismatique, on embrase l'évangile de prospérité. Il y en a 24 millions qui renient la Trinité. Il y en a 100 millions qui sont catholiques. Comme Nathan Business l'a dit aujourd'hui, faites les mathématiques, ce n'est pas une frange, c'est le mouvement lui-même. Et ça grandit de manière fulgurante. D'autres ont dit, vous attaquez le mouvement qui nous a donné une adoration riche. Que cette musique qui est née du mouvement charismatique enrichit l'adoration de l'Église. Bien, j'ai une opinion différente sur ce sujet. Je suis convaincu que le style charismatique contemporain de musique est le point d'entrée pour la théologie charismatique dans les églises. Si vous achetez la musique, vous soumettez à la musique, vous êtes attiré par la musique, vous embrasez aussi la théologie. Lorsque vous écoutez ces artistes, et lorsque vous expérimentez les mêmes émotions, et peu importe si l'Église est charismatique ou pas, mais ces styles qui sont les mêmes dans les églises charismatiques, c'est le point d'entrée. Montrez-moi une église qui a une profession de foi qui est forte, et je vous montrerai une église qui est lente à embraser ce style de musique. Montrez-moi une église qui aime les cantiques qui embrase la théologie profonde, et vous allez voir une église qui est lente à accepter le mouvement charismatique. Parce que lorsque la musique ne rentre pas, la théologie ne rentre pas non plus. Parce que c'est le point d'entrée qu'ils utilisent, le point d'entrée séducteur. Et bien sûr, il y a de la musique contemporaine qui est très belle et nous devrions la chanter, mais lorsque cette musique ne réfère pas à la pensée, mais qui est vraiment une séduction de la chair, ce n'est pas centré sur l'esprit, la vérité qui est comprise, mais qui se centre sur des émotions ressenties, ça produit ces sentiments qui sont consistants avec le mouvement charismatique qui ouvre les portes. Si on chante tous sur le même ton, dans la même musique, alors comment se diviser? Je pense que le mouvement charismatique a au contraire diminué la louange, enlevé l'adoration de son milieu de vérité et l'a réduit souvent à une adoration de la chair. Beaucoup de gens critiquent de même, et ça, ces critiques sont venues rapidement dans ces conférences, c'est que nous attaquons des frères. J'aimerais pouvoir affirmer ceci, mais nous l'avons dit d'une manière ou d'une autre, c'est un mouvement fait en grande partie par des non-chrétiens. Il y a quelques années, j'avais une interview avec NBC. Il y a eu un grand scandale dans le monde évangélique. Et ce reporter m'a demandé « Pourquoi est-ce que vous laissez ces choses arriver ?» Et c'était sa question. C'est qui la police dans votre mouvement? C'est qui la police dans votre mouvement? Il ne pouvait pas comprendre le fait que les évangéliques semblaient être ouverts à tous, que les gens n'avaient aucune redevabilité, aucune autorité ou centralité. Et j'ai répondu: il n'y a personne qui fait la police dans le mouvement. Et c'est triste. Qui devrait être la police dans le mouvement? Je vais vous le dire. Chaque pasteur qui est fidèle, chaque ancien, chaque enseignant, chaque théologien devrait faire cela avec fidélité. C'est les leaders réformés qui connaissent la vérité, ils connaissent l'évangile, ils connaissent la parole de Dieu. Ne font pas la police par rapport à ce mouvement. Il va y avoir une terreur spirituelle qui va dominer. C'est comme l'islam. On entend sans cesse les terroristes. C'est simplement une minorité dans la frange lunatique. Alors, pourquoi est-ce que les musulmans conservateurs ne s'assemblent pas en masse et rejettent les terroristes? Mais ils ne le font pas. Il y a un fardeau qui est pesant sur les épaules de tous ceux qui connaissent la parole, qui est de dénoncer ce mouvement. Mais on n'entend pas ces choses. Alors les gens disent: MacArthur, il est fixé là-dessus, il est toujours en train de combattre les charismatiques. Si vous faites partie de notre église, vous savez que c'est pas vrai. On a passé 40 ans à aller dans le Nouveau Testament, verset par verset. Je pense pas qu'on est fixé sur une seule chose. Je suis venu en 1969 et depuis, nous n'avons eu qu'une seule conférence sur le mouvement charismatique. Et c'est maintenant. Et c'est arrivé vraiment trop tard, je pense. On parle d'une plaie qu'on aurait dû penser il y a longtemps. Je ne suis pas fixé là-dessus et j'étais accusé de cela hier, alors qu'on était seulement deux jours dans une conférence, alors que j'étais ici 45 ans. Il y a d'autres questions qu'ils ont occupées, comme l'exaltation de Jésus-Christ et les autres choses dans la parole. Et puis on était accusé d'offenser les gens et leurs sentiments. Et bien sûr, je ne veux pas faire ça. Une fois, j'étais introduit par un ami alors dans une librairie. Et un ami m'a dit, je vous introduis à Marc Arthur, qui est beaucoup plus gentil en personne que lorsqu'il prêche. J'espère que c'est vrai, mais pour dire la vérité, lorsque je prêche, je dois dire ce qui est dans la Bible. Et en étant honnête, je me soucie de ce que les gens ressentent et je ne veux pas les offenser. Mais je ne veux. Mais la chose que je ne peux faire, que je ne peux pas faire, c'est d'offenser Dieu. Et les gens applaudissent. Ce mouvement est un mouvement étranger. Je n'ai pas besoin d'entrer dans l'histoire de tout cela, ce courant. Il y a un courant de saine doctrine, de saine théologie qui coule depuis les apôtres, qui coule au travers d'Anathase, de Calvin, de Luther, et des grandes réformations, de la grande réforme, des puritains, et tout semble tellement clair pour eux. Et de la confession de foi de Westminster, et au travers de Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, et ça coule au travers de S. Lewis Johnson, et James Bond, Boyce, jusqu'à aujourd'hui à R.C. Sproul et autres. Ça, c'est le courant de saine doctrine. Les héros de cette génération, de ce courant, nous les connaissons, nous les avons entendus cette semaine. On revient au John Rogers et des 288 martyrs de la Marie sanguinaire. Et on se rappelle de ceux qui, avec sacrifice, portaient la vérité jusqu'à la prochaine génération. On a un amour, une appréciation comme pour quelqu'un comme William Tyndale. Et ce qu'il a fait, ceux-ci sont nos héros, nos héros. Mais c'est trop tout courant des évangéliques commence vraiment depuis l'année 1966, depuis que les hippies sortirent de San Francisco et viennent à Los Angeles et rejoignirent l'église de Calvary. Et une nouvelle sorte d'église hippie qui dit à l'église comment se comporter. Et pour la première fois dans l'histoire, la conduite de l'église fut conformée à une sous-culture qui fut née du cannabis et du nord de la Californie. C'est un courant complètement différent qui a lancé ce mouvement informel qui est conformé par la culture et ça a mené avec les années aux excès qu'on voit dans le mouvement charismatique. Et ces choses-là produisent les gens qui ne sont pas nos héros. Je ne reviens pas à Lanny Frisbee qui mena le mouvement Jesus et qui mourra du sida. Ce n'est pas mon courant. Mais c'est le courant qui a produit ceux qui sont attachés à la culture, ceux qui sont sensibles aux visiteurs, plutôt que de vouloir faire un ministère pour les croyants. C'est de là où ça vient, ce mouvement. Mais on est vraiment différent. On est différent. Nos héros sont différents. Nous savons qui est notre peuple. Et si vous êtes sauvés, vous savez que vous êtes de ce côté. Et si vous êtes de notre côté, alors vous êtes fidèles, vous avez une responsabilité à être fidèles à cette histoire merveilleuse qui nous a été transmise. Et s'il y a des gens qui vont faire la police dans ce mouvement, ce sont les gens ici parmi nous. Ça me concerne tellement que, si vous ne l'avez pas vu, j'ai écrit un 12e chapitre dans le livre. N'ouvrez pas le livre, parce que je vais le lire. Mais dans le chapitre, c'est une lettre ouverte à mes amis continualistes. Une lettre ouverte à mes amis continualistes. Qui sont mes amis continualistes? Des gens qui sont mes amis, des vrais amis, que je respecte, qu'ils ont fait des grandes contributions au corps de Christ et à l'Église, qu'ils ont enseigné à nous tous, à moi-même, qu'ils ont fait ministère avec moi, main dans la main, avec qui j'ai prié, des fois pendant des heures et des heures, avec qui j'ai parlé, avec qui on a échangé des convictions, mais ils s'appellent continualistes parce qu'ils veulent donner place au mouvement charismatique. Et ce que j'aimerais suggérer, c'est que ce qu'ils font n'aide pas. Cette ouverture n'aide pas. Nous avons besoin d'eux pour nous aider à faire la police dans le mouvement. Et dans ce chapitre, je donne 8 affirmations importantes. Pourquoi est-ce que ces amis doivent nous aider? Premièrement, la position continualiste donne une illusion de légitimité au mouvement charismatique au large. Si vous dites que vous êtes un continualiste, vous avez donné crédibilité à ce mouvement. Peut-être que vous voulez contrôler cela un petit peu ou le contenir. Mais souvent, les théologistes continualistes, qui sont une minorité dans le mouvement charismatique, lorsqu'ils donnent la crédibilité à ce mouvement, le mouvement entier reçoit un certain respect à cause de qui ils sont. Et puis, vous avez cette jeune génération de jeunes infatigables et réformés qui s'attachent à leurs héros, qui sont ouverts à ce mouvement charismatique et qu'il affirme la continuation des dons miraculés. Et donc, ils suivent leur héros et embrassent leur idée de continuation ou sont ouverts à cette idée qui, essentiellement, c'est la même chose. Lorsque des gens reconnus, les académiciens continualistes approuvent les interprétations charismatiques ou manquent de condamner directement des pratiques charismatiques qui ne sont pas bibliques, il donne une couverture théologique à un mouvement qui est mortellement dangereux. Deuxièmement, la position continualiste dégrade la nature des dons miraculeux que Dieu donna au premier siècle. Et on résume ce qu'on a dit cette semaine, une fois de plus. Mon deuxième argument, c'est que la position continualiste dégrade la nature miraculeuse des vrais dons que Dieu donna à l'Église du premier siècle. Nous savons que Dieu a donné une révélation lors du temps de Jésus et des apôtres, et les dons, les signes, les miracles existaient pour valider ceux qui proclamaient et écrivaient cette révélation. Hébreux 2, verset 3. L'évangile qui commença à être parlé par Jésus fut confirmé par ceux qui l'ont entendu, et Dieu, en témoignant par des signes et des merveilles et des miracles et des dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Écoutez, ce texte n'a aucun sens si les signes et les merveilles, et les miracles, et les langues, et les prophéties, et les guérisons appartiennent à tous et à l'expérience de tous aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. C'est pas un signe de quoi que ce soit. De plus, lorsque les continentalistes utilisent la terminologie du Nouveau Testament, mais les utilisent pour vouloir dire quelque chose d'autre, ça déprécie le caractère de ce qui est vrai. Ça diminue les manières glorieuses avec lesquelles le Saint-Esprit œuvre. Si les dons aujourd'hui sont les mêmes que ceux du Nouveau Testament, alors les dons du Nouveau Testament, il n'y avait rien de spécial au premier siècle avec les apôtres. De voler la terminologie du Nouveau Testament et de redéfinir les dons miraculeux et bibliques, ça dégrade ce qui était vraiment avec authenticité miraculeux au premier siècle. Et le continentalisme réformé aide cette mauvaise représentation. Et troisièmement, la position continentaliste n'aide pas les gens qui tombent dans le chaos, la confusion du mouvement charismatique. Dans mon livre, vous allez lire les choses les plus bizarres qui sont soutenues comme expérience spirituelle par ceux qui sont les plus reconnus personnages, individus charismatiques. Un d'entre eux était même avec nous aujourd'hui. Vous avez entendu des choses très très bizarres qui ne devraient être dénoncées sans scrupule. Et pourtant, on attend et on attend et on attend pour que la dénonciation revienne. Et on attend que les continentalistes sachent mieux faire. Et on attend. Mais ils ont abandonné la position forte et ne peuvent pas parler parce qu'ils ont permis ces choses. Et avec quels critères est-ce qu'ils peuvent discréditer ces réclamations? Et quatrièmement, en insistant que Dieu donne une révélation, une continuation de la révélation, ça ouvre la porte pour plus de confusion. Ils disent, il y a des prophéties aujourd'hui, mais elles peuvent être fausses. Il y a des langues aujourd'hui, mais ce n'est pas des vraies langues. Il y a des guérisons aujourd'hui, mais ce ne sont pas les mêmes guérisons du temps de Jésus et des apôtres. Les continentalistes, leur position, invitent les chrétiens à interpréter tout comme si ça venait de Dieu. Le charabia, des expériences supposées spirituelles, des émotions, des idées qui flottent dans l'esprit, et c'est considéré des prophéties. Ça enlève l'objet et le standard autoritaire, et ça met en question la légitimité de tout ce que les gens disent. Les continentalistes, en permettant un petit peu, permettent à tout, parce qu'il n'y a aucun critère pour décider ce qui est, ce qui n'est pas, selon Dieu. Cette idée que les chrétiens devraient s'attendre à la révélation supplémentaire de Dieu, des expériences mystiques et des paroles de prophétie, créer un train qui dérape, un train théologique qui dérape, et on ne peut pas contenir les erreurs qu'ils embarquent dans ce train. Cinquièmement, en insistant que Dieu donne toujours des nouvelles révélations aux chrétiens aujourd'hui, les continentalistes renient la doctrine de sola scriptura. Et je n'ai pas besoin d'accentuer cela, parce que Steve a décrit cela hier. Et je dis ça parce que tous mes amis continentalistes que je connais renierait le fait que le canon est fermé. Il ne renie pas le fait qu'il y ait 66 livres dans la Bible, il ne renie pas le fait que la Bible est autoritaire, et pourtant, ils faillissent de se tenir sur ce qu'ils affirment, parce qu'ils permettent aux chrétiens de croire qu'ils peuvent recevoir des révélations supplémentaires. Et le pire, c'est qu'ils... C'est parce que les gens en position de puissance veulent que vous croyez qu'ils parlent avec autorité. et en acceptant, encore une fois, les continualistes, lorsqu'ils acceptent le parler en langue, qui est extatique, ils acceptent une pratique qui confuse les gens, qui confond les gens. Ils admettent que le parler en langue n'est pas des vraies langues. Et on parle de prophéties qui ne sont pas les mêmes que les prophéties bibliques, qui sont 100% correctes. Les dons miraculeux de guérison ne sont pas les mêmes du 1er siècle. Et le parler en langue n'est pas le même qu'au 1er siècle. En fin de compte, si toutes ces choses sont différentes, les continualistes croient en ce que nous croyons. Ils sont des cessationnistes de chambre. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accepté une contrefaçon. Et on ne peut pas être fier de quelque chose comme ça. Ce n'est pas une position noble d'accepter quelque chose de faux, d'une fausse imitation, et fausse imitation par leur même admission. Ils admettent cela. Septièmement, en disant que le don guérissant est le même, ou continue, ils embrasent un ministère frauduleux des guérisseurs charismatiques. Alors qu'il n'y a aucune évidence que ce don est encore présent par expérience biblique. Alors si on dit que ça existe toujours, alors on valide une fois de plus le ministère de ces guérisseurs frauduleux. Et qui veut faire ça? Ils sont en bas de la gamme. C'est le pire du pire. Ils ne vont pas dans les hôpitaux. Ils prient pour ceux qui sont le plus désespérés, ceux qui sont le plus sévèrement malades, ceux qui ont le moins d'espoir, ceux qui sont les plus destitués et souvent les plus pauvres. En leur disant des mensonges et en s'enrichissant. Qui voudrait faire quoi que ce soit pour aider ces gens? Et finalement, les continualistes, dans leur position, déshonore le Saint-Esprit en distrayant les gens du ministère du Saint-Esprit. Ce n'est pas assez d'avoir le Saint-Esprit demeurant en nous et son influence, ce n'est pas assez d'avoir les dons de l'Esprit, d'avoir les fruits de l'Esprit, d'avoir la grâce de l'Esprit. Ce n'est pas assez d'avoir les promesses du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a besoin de venir à Dieu et de dire « Donne-moi plus, donne-moi cette chose de plus, je veux cette chose. » Quoi? Quel genre de manque? Est-ce qu'on accuse l'Esprit? Vous avez déshonoré l'Esprit, le Saint-Esprit. Vous avez attiré des gens à des imitations illégitimes plutôt que vers une reconnaissance pleine de ce que le Saint-Esprit nous a déjà donné. Et Dieu ne donne pas son Esprit avec mesure. Là, position continualiste est un obstacle dans le chemin de la sanctification et de la croissance spirituelle. Quelles sont vos raisons? Premièrement, parce que ça dit aux gens qui manquent quelque chose et qu'ils ont besoin de poursuivre après quelque chose. Et c'est triste. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter à cela. Parce que je suis convaincu que le mouvement charismatique au large a accepté plus d'erreurs théologiques qu'aucune autre aberration théologique de notre âge moderne. Le libéralisme était mauvais, la psychologie était mauvaise, l'œcuménisme est mauvais, le pragmatisme est mauvais, le mysticisme est mauvais. Mais il n'y a rien qui est aussi mauvais que le mouvement charismatique à cause de son impact qui est si grand. Et lorsque cette expérience, cet amour pour l'expérience prend racine, c'est difficile de protéger l'Église, parce que cette théologie charismatique devient ce feu étranger de notre génération. Et les chrétiens de notre génération n'ont aucun business à flirter avec ce mouvement. Et je pense que c'est le temps pour la vraie Église à se lever et répondre pour les gens, de ceux qui se tiennent sur les épaules de la réforme, pour être fidèles à la théologie de la réforme. Si on réclame d'être fidèle à la théologie de la réforme, il faut être fidèle. On ne peut pas s'appeler un charismatique réformé. Et Jean Calvin rejetterait cette terminologie. Et Jean Calvin a rejeté ce fait. Il faut se débarrasser de la partie calviniste. Je me sens concerné parce que je sais qu'il y a des gens pieux, de mes amis, qui pourraient faire une différence tellement grande pour cette nouvelle génération, cette jeune génération, pour cette jeune génération qui doit savoir quoi penser de ce mouvement. Et ces leaders doivent prendre position. Vous pensez peut-être que j'ai fini, mais non, pas encore. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles dans le dernier chapitre, la première épître à Timothée. Et je ne veux pas être long avec ceci. Il y a une chose qu'il faut que je dise. Et c'est ceci. Si je ne prenais pas position, et si ces autres hommes avec moi ne prenaient pas position comme ils l'ont fait, nous serions infidèles à notre appel pastoral. Ce n'est pas juste une fixation que j'ai, une question personnelle. C'est mon devoir en tant que pasteur. Je vais être redevable devant Dieu de cette responsabilité qui m'a été confiée. Lorsque Paul finit sa vie, il écrit à Timothée, il passe le relais et il lui rappelle en 1 Timothée 6 que ça a été un combat. Ça a été un combat, un bon combat, il l'appelle, un bon combat de la foi, une bataille. Et puis il dit Timothée au verset 20 du chapitre 6, « ô Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. » De quoi il parle? C'est quoi ce dépôt? Garde le trésor. C'est quoi ce trésor? La révélation divine. Garde le dépôt, ce qui a été donné entre tes mains, cette vérité divine, et évite les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont aussi détournés de la foi. Et c'est la fin de cette lettre, alors qu'il passe le relais, ses derniers mots, garde le trésor de la vérité, évite les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. C'est une responsabilité fondatrice de l'homme de Dieu de garder le trésor, de protéger le trésor dans son temps et de le passer pour les générations futures. Paul est concerné pour Timothée. Alors après avoir écrit à Tite, qui est l'avant-dernière lettre de Paul, et puis il écrit à 2 Timothée, enfin sa dernière lettre, ses dernières paroles. Il prend Timothée à cœur, il est très concerné. Verset 6, il dit, au chapitre 1, « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Timothée avait fait face à des difficultés avec, dans l'église et en dehors de l'église, des intimidations qui le poussaient à être silencieux, à être timide. Alors Paul lui dit au verset 7, « Car Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de Timothée. » C'est un temps terrifiant pour Paul, parce qu'il s'angoisse, parce qu'il sait qu'il doit passer le bâton à Timothée, et Timothée a l'air d'être faible. N'aie pas honte de cet évangile, n'aie pas honte de prêcher, n'aie pas honte de la vérité, avec ce don que tu as reçu, qui était confirmé par l'imposition des mains des anciens, ne sois pas un poltron. N'aie pas honte du témoignage de notre Seigneur. Vous rigolez ? Timothée, après toutes ces années avec Paul, après avoir vu le triomphe du ministère de Paul, pouvait avoir honte du Timothée du Seigneur et avoir honte d'être associé avec Paul ? Apparemment, il avait besoin de cet encouragement. Et pour Paul, c'était un temps terrifiant de la fin, et il s'inquiétait pour Timothée. Il lui dit, verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues en moi. Garde le bon dépôt, ce trésor par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Ce trésor qui t'a été confié. Je comprends, de nos jours, il y a toutes sortes de gens qui sont dans le ministère parce qu'ils sont cool, ils sont intelligents, ils captivent les audiences. Mais l'instruction de Paul à Timothée, c'est de retenir les paroles saines et de garder la vérité comme un trésor. Le ministère, c'est une protection. C'est de garder, pas seulement de proclamer la vérité, mais de la protéger. Le cœur de Paul est brisé à la fin de sa vie. Il dit à Timothée, au verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phrygiel et Hermogène. » Tous l'avaient abandonné. Il était seul, ce qui est incroyable pour Paul. Sauf pour la maison d'Onésiphore, qu'il a souvent rafraîchi, qu'il n'avait pas honte de ses chaînes. Tout le monde avait abandonné Paul. Le prix était trop élevé. Paul était à la fin de sa vie. Et il plaide à Timothée, « Timothée, je t'ai donné ce trésor. Garde ce trésor. Retiens les saintes paroles. » Chapitre 2, continue à crier de son cœur, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. À des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » On parle de 4 générations. Il y a Paul, il y a Timothée, et ceux qui sont là et qui peuvent enseigner à d'autres. Ça, c'est le relais. Et ça m'attriste de voir ces églises qui viennent, qui poussent partout, qui s'isolent de tout ce qui s'est passé dans le passé. Non, cette église, c'est pas l'église de grand-père, il n'y a pas d'orgue, il n'y a pas de tradition, et il crée une image qui est isolée de l'expérience de tous, de l'église. Et Paul dit, je t'ai donné la vérité, et toi, tu la donnes à la nouvelle génération pour qu'ils puissent la donner à la nouvelle génération. C'est ça, d'être fidèle de ce qu'on t'a confié. Pas d'être créatif. Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. t'embarrasse pas des affaires de la vie, combat comme un athlète. Il parle de toutes ces images, le fermier, le soldat, l'athlète, l'enseignant. Verset 9, après il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ, c'est ton modèle de fidélité. J'ai souvert même jusqu'à l'emprisonnement, mais la parole n'est pas liée. C'est la parole ultime pour n'importe quel ministre qui est jeune. L'apôtre est prêt à poser sa tête sur un bloc avant d'être coupé. Et la nouvelle génération est entre les mains de Timothée. Je pense à cela lorsque je pense au caractère et au style de ces hommes qui sont pasteurs. À quoi va ressembler la prochaine génération si ce qu'ils reçoivent est entre leurs mains? Que doit faire Timothée? Verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et c'est ce dont on parle. C'est le mandat de Dieu de dispenser droitement de la parole de la vérité. Évite les discours vains, verset 16, et profanes qui tiennent avançant vers l'impiété. La parole rongera comme la gangrène. Ça cause beaucoup de dégâts. Ça éloigne les gens de la vérité. Et puis au verset 20, on continue. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Laissez-moi être un peu direct pendant une minute. Toutes ces maisons, dans les temps anciens, avaient ces vases. On a l'avantage de la plomberie de nos jours, qui enlève l'urine et les déchets. Les vases d'or et d'argent, c'était pour les choses honorables, la nourriture. Mais les vases de bois et de terre, c'était pour les choses de déshonneur. C'était pour les déchets. C'était pour les excréments. Que voulez-vous être? Voulez-vous être un vase privé pour ces choses de toilette ou être un vase d'or dans les mains de Dieu? Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est quoi ces choses? L'influence des choses du monde qui mène à la vie de la chair qui ronge comme la gangrène. Si on se conserve pur de l'influence des choses qui sont pas bibliques, on sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Toutes ces choses mènent vers un même chemin. Un même chemin. Nous avons entendu de Conrad Mbewe aujourd'hui. Restez attachés à la parole. Chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre? Rappelez-vous que Dieu, que tout est fait dans sa présence, qu'il doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement, de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion qu'il reviendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, se donneront une foule de docteurs sur leur propre désir. Si on comprend le ton de ces paroles, depuis que j'étais un jeune homme, lorsque mon père m'a donné ma première Bible dans laquelle je prêchais, il a écrit en première page, « Cher Johnny, prêche la parole. Et il passa le manteau pour moi de prêcher la parole. Il ne m'a pas fallu longtemps pour savoir qu'il y avait un contexte à prêcher la parole. Ce contexte, que j'ai été redevable devant Dieu d'être fidèle à cette parole. Et ce que ça voulait dire, c'était la fidélité à la sainte doctrine de garder le trésor qui m'a été confié. Paul finit sa vie en rappelant Timothée, j'ai combattu le bon combat. Oui, ça a été un combat. J'ai fini la course. J'ai gardé la foi, le corps de vérité qui constitue la foi chrétienne. Et je vais continuer pour ma récompense. Ça n'a pas été facile pour Paul. Tous ceux de l'Asie l'abandonnèrent. Démas, verset 10, m'a abandonné. Christian était en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Imaginez tout ce qu'il avait fait. Il est tout seul. Et il y a seulement Luc. Et il demande à Marc de venir, de le rejoindre pour une communion, et pour un manteau, et pour des parchemins. Sa première défense, verset 16. Dans la première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Ça va être comme cela. Je suis entouré par des gens vraiment merveilleux. Je suis béni. Je ne peux pas dire, comme Paul, que tous m'ont abandonné. Je suis béni. Pas tous m'ont abandonné. Mais tous ceux qui prennent position dans des choses comme ça, savent ce que ça veut dire d'être attaqué. Mais à la fin de la journée, on dit, le Seigneur m'a fortifié. Et vous allez devoir faire ça. Vous allez être isolé lorsque vous allez vouloir prendre position à certains moments. Mais le Seigneur va vous assister et vous récompensera pour votre fidélité. Quelle lettre du cœur à Timothée. Vous voulez savoir comment Timothée répondit ? La réponse à cela vient à la fin d'Hébreux. Parce que l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit verset 23 en Hébreux 13. Prenez note, sachez que notre frère Timothée a été relâché. D'où la prison. Timothée fut emprisonné et fut relâché. Timothée a été resté silencieux de son don pour éviter cela. Il avait été timide lorsque Paul avait écrit. Et c'est ce que Paul voulait éviter qu'il se passe. Timothée reçut cette lettre. Cela accrocha son cœur et il devint courageux. Et il alla en prison. Mais il fut relâché. Juste un petit mot. Mais je suis content que ça soit là. Je suis content que ça soit là. Parce que la lettre de Paul changea le cours de la vie de Timothée. Et que ça fasse la même chose pour vous, pour nous tous. Que nous gardions ce trésor, retenant les saintes paroles, que nous étudions la parole pour ne pas être honteux de la parole, sachant diviser la parole, dispenser de la parole avec fidélité. Et si les gens ne prennent pas position avec nous, Mais Dieu ne nous abandonnera pas. Père Céleste, nous te prions pour ce temps ensemble, pendant ces journées. Ça a été au-delà d'une bénédiction. Je sens que nous avons été à la montagne. Nous sommes rapprochés de ta gloire. Et ça devrait être notre sentiment, ça devrait être notre attitude, parce que nous avons attentivement voulu être concentrés sur toi et ta parole. Et c'est là où la gloire réside, dans ta parole. Car c'est dans ta parole où tu es révélé comme le Dieu glorieux. Merci pour la communion que nous avons pu prendre part. Merci pour les nouvelles amitiés fraîches qui ont été produites. Père Céleste, on a essayé de t'offrir une offrande de service dans cette conférence, d'élever devant toi nos esprits et nos cœurs pour être préparés pour un nouveau niveau de service et d'utilité pour toi, pour de petites manières qu'on peut, individu par individu, de tenir ferme contre le courant qui te déshonore. Dieu, notre Père, Christ, notre Sauveur, et Saint-Esprit, notre force, notre aide. Tout cela, c'est pour ta gloire, pour ton honneur. Tout cela. Nous l'avons fait avec humilité, sachant que le mieux que nous puissions t'offrir n'est pas digne de toi. Toutes nos œuvres, nos pensées, que ce soit tout ce que nous avons emmené orateurs ou ceux qu'ils ont écouté, nous avons tout fait dans l'intention de te glorifier, que ce soit le commencement de vie qui soit dévouée à ceci, pour ta gloire. Que nous puissions sentir la souffrance et la douleur lorsque ton nom est déshonoré et insulté, et utilise-nous comme instrument pour enlever des branches qui vont être brûlées, pour aider des non-croyants à s'échapper à une tromperie inutile. On t'offre cette semaine à toi, et que, alors que la vérité se répand dans le monde, utilise-la comme tu veux, selon tes désirs, c'est tout ce que nous pouvons te demander. Et on se réjouit et on se repose dans ce que tu fais avec ce qu'on te donne sur l'autel. Sois glorifié, Dieu, nous te prions. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.